Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous. Et bienvenue dans Univox, le programme d'actualité du réseau Radio Campus France. Deux portraits d'étudiants aujourd'hui dans Univox, deux portraits de jeunes qui sont partis à l'autre bout du monde. Le thème de l'émission, c'est en quelque sorte le voyage initiatique. Elle est partie 2 mois en Inde, à New Delhi très exactement, pour venir en aide aux jeunes enfants des bidonvilles. Clara de Cherizet, c'est son nom. Cette étudiante à Polytech Lyon s'est rendue là-bas au profit d'une association Partir et Agir, une asso bourguignonne qui s'est donnée pour mission de scolariser les enfants des quartiers pauvres de New Delhi. Clara s'est donc rendue avec d'autres jeunes volontaires français dans les écoles construites par l'association Partir et Agir. Là-bas, elle a apporté un soutien scolaire aux jeunes indiens des bidonvilles. Et puis nous donnerons la parole à Guillaume Brun dans cet Univox consacré au voyage. Guillaume, étudiant également, a réalisé un tour du monde des pharmacies après avoir parcouru l'Europe, l'Asie, mais aussi l'Amérique. Il a repris ses études de pharmacie. Il nous racontera son périple, nous dira ce qu'il a appris dans les officines du monde entier. Alors on commence tout de suite cet Univox proposé aujourd'hui par Radio Dijon Campus avec l'interview de Clara de Cherizet. Clara de Cherizet, bonjour.
Bonjour.
Alors tu es actuellement donc étudiante à Polytech Lyon. Si on t'appelle aujourd'hui, c'est pour en savoir plus sur ton engagement au sein d'une association qui s'appelle Partir et Agir. Partir et Agir, c'est une asso en gros qui développe le soutien scolaire auprès d'enfants de New Delhi. L'été dernier, une petite équipe d'étudiants est partie en Inde, donc sous l'égide de l'asso Partir et Agir. Et dans cette équipe, il y avait donc toi, Clara. Alors ma première question, c'est comment as-tu connu cette association ?
Alors en fait, c'est du bouche à oreille, tout simplement. Ma cousine en a entendu parler elle-même. Elle s'est engagée donc dans l'asso et dans la préparation du voyage. Et elle m'en a parlé et j'étais motivée. Donc je lui ai demandé si je pouvais venir et voilà, ça s'est fait comme ça.
Et qu'est-ce qui t'a motivée alors à partir ? Parce que bon, c'est pas forcément... ça demande quand même un vrai engagement, on va dire.
C'est vrai. Alors déjà, l'Inde, c'est pas du tout un pays que... dans lequel j'avais vraiment envie d'aller. Mais là, l'occasion se présentait de faire de l'humanitaire, en fait, à l'étranger. Et c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Donc, l'Inde, pourquoi pas. Et le côté humanitaire, j'en fais déjà en France. J'aime beaucoup ça. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de m'engager là-dedans.
Et donc, l'humanitaire, donc, c'était dans la même association que tu en faisais également en France ou
Pas du tout. En France, je suis dans une association qui aide des personnes handicapées à monter à cheval. Et j'ai été aussi au Secours Populaire pendant plus d'un an.
Donc dans ce projet, ce qui te plaisait, c'était le côté humanitaire, on va dire. C'était le côté aider les gens, quoi. Mais bon, c'est particulier, puisque là, c'est plutôt dans le domaine de l'éducation. Alors pourquoi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ?
Alors j'ai mon BAFA. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Et en fait, j'accorde beaucoup d'importance à l'éducation parce que finalement, c'est ça qui construit quelqu'un. Et là-bas, les enfants en ont besoin. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Alors donc, tu es parti pendant combien de temps ? Donc, c'était l'été dernier, me semble-t-il. Et donc, combien de temps à peu près ça a duré ce voyage ?
5 semaines.
5 semaines. Alors donc, quand tu arrives sur place en New Delhi, quelles sont tes premières impressions, on va dire ?
La chaleur,
alors.
Un climat de mousson absolument horrible, une humidité vraiment à couper le souffle. Mais moi, je m'y suis pas habituée. Les autres s'y sont bien habitués, moi pas. C'était vraiment le plus compliqué pour moi pendant ces 5 semaines.
Et donc la ville là-bas, New Delhi, je sais pas, quelque chose de particulier, la vie là-bas.
Comment dire ça poliment, c'est c'est en fait, j'appelle ça un bordel arrangé. C'est-à-dire que tout le monde a sa place, mais c'est n'importe quoi. Les voitures, les gens, il y a du bruit en permanence partout. Ça s'arrête jamais.
Oui, oui, bah c'est vrai qu'on a l'image un peu de New Delhi où les gens roulent un peu n'importe comment. Il y a pas, vraiment des enfin, au niveau de la signalisation, c'est un peu n'importe quoi. On a l'impression. Donc c'est vrai. Alors.
C'est exactement ça. Si quelqu'un sait conduire à New Delhi, il saura conduire partout.
Et alors donc tu le rappelais, t'étais avec une équipe. Donc c'est ce que je disais aussi en introduction. Donc avec une équipe de, vous étiez combien à peu près? 6, 7. Et donc les autres, c'est pareil. Ils avaient un petit peu le même parcours que toi, ou c'est des gens d'un peu partout en fait, d'un peu partout qui viennent alors.
C'est ça. Donc c'est des gens qui viennent de mon lycée et d'un lycée à côté. Donc ils avaient tous 2 ans ou 3 ans de moins que moi.
Ok.
Et donc eux, ils venaient de passer le bac alors que moi j'étais déjà en études supérieures. Et c'était leur première expérience à eux aussi, vraiment cette expérience d'humanitaire dans un pays quand même assez difficile. Mm-hmm. Mais à part ma cousine qui a vécu 16 ans à Madagascar et donc qui elle connaissait un peu...
Donc qui était avec toi alors, qui était là aussi alors,
qui était là aussi. Ouais, okay.
Et donc alors l'éducation là-bas, alors, parce que bon si l'association emmène des gens, on va dire là-bas à New Delhi, c'est pour aider dans l'éducation, en gros pour aider les jeunes, on va dire. C'est pareil, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui ne va pas, enfin qu'est-ce qui doit être amélioré, on va dire à New Delhi.
Alors l'école est obligatoire en Inde. Mm-hmm. Donc les enfants vont à l'école, on les voit un peu à la mode britannique, puisque c'est une ancienne colonie britannique, mmh, ouais. Donc c'est les enfants en uniforme qui vont à l'école tous ensemble. Mais c'est vrai que dans les bidonvilles, même si l'école est obligatoire, c'est pas respecté. Dans les bidonvilles, les parents demandent à leurs enfants de les aider à travailler en fait. Et donc l'intérêt d'avoir ces écoles au sein même des bidonvilles, c'est que les enfants peuvent y aller, ils sont inscrits dans l'école. Ils y vont dès qu'ils sont libres, le matin et l'après-midi, ils ont l'école obligatoire. Et ils y vont aussi.
Et donc, l'association a créé des écoles là-bas, alors des écoles dans les bidonvilles. Alors.
Des écoles au sein des bidonvilles, 3 écoles au sein des bidonvilles avec des vrais enseignants.
Ah oui, donc ça, les enseignants, c'est des gens du pays?
C'est des Indiens, oui. Il y a 2 personnes qui font partie de l'association. 2 Indiens qui sont tous les deux enseignants dans une école. Mmh. Et ils ont engagé des Indiennes comme enseignantes dans chaque école aussi.
Et alors, comment dire, en gros, toi, quelle était ta mission vraiment là-bas, alors, au sein de ces écoles?
Alors, en fait, d'abord, un état des lieux. Parce qu'en fait, les écoles ont été construites il y a plusieurs années maintenant. Et le président de l'association, qui est donc bourguignon comme moi, n'y est pas allé depuis 20 ans, en fait, à New Delhi. Et donc, il n'a aucune idée de commencer, même s'il a des contacts Skype avec les enseignants. Il ne voit pas comment c'est. Et donc, il voulait vraiment qu'on lui donne... plus qu'un aperçu de ce que sont devenues les écoles. Donc un état des lieux, ce qu'ils ont besoin, etc.
Oui.
Puis après de l'aide scolaire, on a aidé les enseignants, on a appris comment fonctionnait leur mode d'enseignement, et puis on a fait beaucoup d'animation aussi.
Donc l'animation, ça consiste en quoi, en quelques mots?
On a fait des choses rigolotes, par exemple on leur a fait découvrir les Scooby-Doo. Truc tout bête, mais ils ont adoré. On a fait du dessin, de l'art plastique.
Et donc, voilà, c'est des enfants de quel âge à peu près, alors, du coup?
Alors, ça va de 4 à 14 ans.
Ah oui, quand même, ouais. Donc, ouais. Et les écoles, les classes sont très chargées, non, j'imagine, non, peut-être?
Les classes sont assez chargées. Y a une 50aine d'enfants inscrits dans chaque école, mais ils viennent pas tous les jours. Donc, ça roule assez bien. Et il y a des classes d'âge à peu près, coupées en 2 pour que ça soit plus homogène.
Et donc j'imagine qu'il faut être bilingue. C'était la condition, je pense, pour partir.
Il faut se débrouiller en anglais, mais même si on a un très bon anglais, c'est compliqué de parler avec les Indiens.
Ah oui, parce que l'accent, et puis les mots, il y a peut-être des mots qui changent aussi.
Les mots, ça va. L'accent, c'est vraiment quelque chose. Si on ne parle pas avec l'accent, si on parle avec l'accent britannique tel qu'on l'apprend à l'école... c'est vraiment difficile de se faire comprendre.
Ça doit faire sourire peut-être aussi les Indiens, peut-être, quand on parle avec l'accent britannique. Et toi, tu t'es vraiment senti utile là-bas?
Oui, vraiment, c'était une superbe expérience. On se sent utile de participer à ça, en fait, de connaître le mode de fonctionnement et de, en fait, d'avoir fait de l'animation. C'était vraiment, d'avoir partagé ce moment avec les enfants, c'était vraiment une super expérience.
Un petit mot pour terminer, on va dire, sur l'association. Alors, Partir et Agir, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que fait cette association? Alors, c'est uniquement ce projet-là d'envoyer des gens en Inde, que c'est ça, l'association Partir et Agir?
Alors, c'est d'abord la construction d'écoles. Mmh. Sur les trois écoles dont je t'ai parlé, il y en a deux qui sont vraiment en dur, c'est-à-dire qu'elles sont en béton, quoi. Mmh. Et en fait, il y en a une qui peut être démolie à tout moment. Parce qu'elle est pas, elle est au sein d'un bidonville et elle peut être, elle est en bambou en fait. Mmh. Et donc le but à terme, ce serait que cette école devienne une vraie école en dur comme on l'appelle. Mmh. Et puis il y a aussi le fait d'envoyer, oui, des équipes en Inde. Mmh. On a été la première depuis un moment, mais l'année prochaine en part une autre. Mmh. Et puis, c'est de récolter des fonds, en fait, tout au long de l'année pour cette association.
Mais justement, j'allais venir, comment elle vit? Alors, cette association, c'est principalement avec des dons, il y a des subventions, peut-être?
Des subventions, des dons et des actions, comme beaucoup, tout au long de l'année, de repas indiens. Donc, voilà, sur le thème de l'Inde, une nourriture indienne, on invite des gens, etc.
Et donc, on a oublié de le dire, mais d'ailleurs, cette association, elle est basée en Saône-et-Loire, c'est ça?
C'est ça.
Donc c'est où exactement?
Enfin, je sais pas, c'est à Nuit-Saint-Georges.
À Nuit-Saint-Georges? Ah mais donc non, c'est pas du coup Côte d'Or.
Non, ouais. C'est en Côte d'Or.
Ok, ouais. Donc c'est là-bas, si par exemple des gens veulent donner, c'est là-bas qu'il faut s'adresser, donc, ou alors sur le site internet tout simplement, Partir.
Voilà, il y a un site internet sur Google, Partir et Agir.
Bah écoute, si peut-être pour terminer, qu'est-ce que toi ça t'a apporté pour toi, tu crois, cette aventure?
La connaissance de l'humanitaire à l'étranger. Mmh. Qui est une expérience pas facile finalement. Le fait de se sentir utile, de faire quelque chose, de découvrir bien sûr une nouvelle culture et un nouveau pays, parce que l'Inde c'est vraiment quelque chose de complètement, complètement différent.
Et donc ça t'aide peut-être dans tes... Parce que toi t'es à Polytech, c'est ça, Polytech Lyon,
oui.
ça n'a pas vraiment de rapport avec tes études, ou alors si ça t'aide peut-être dans tes études, ce voyage, ça t'a aidé
Moi, ce que je fais, c'est du génie biomédical. Donc, oui. En fait, ingénieur biomédical, c'est une personne qui va à un moment apparaître dans la vie d'un dispositif médical comme un IRM, un scanner, etc. Mmh. Si, ça peut m'aider parce que j'ai un projet à terme et ce qui se réalisera, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup faire du biomédical dans un pays en situation difficile.
Bah écoute, très bien, merci beaucoup Clara donc de Cherizay. Bah écoute, en tout cas on te souhaite bon vent hein, pour la suite. Hein. Et puis on dit donc aux gens, vous pouvez donner donc à Partir et Agir. Merci à toi.
Merci beaucoup à toi. Au revoir.
C'est Univox, vous venez d'entendre l'interview de Clara de Cherizay, étudiante à Polytech Lyon. Clara, avec qui nous avons parlé de son voyage humanitaire à New Delhi, partie de moi en Inde. Elle a apporté un soutien scolaire aux jeunes enfants des bidonvilles. On reste sur le thème du voyage. Après une courte pause musicale, on entendra Guillaume Brun qui a fait le tour du monde des pharmacies. On s'écoute tout de suite La Traversée de Radio Elvis.
Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure. Mmh. des femmes. Des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même un soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer. Il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute, qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée.
La traversée de Radio Elvis. On continue ce numéro d'Univox consacré au voyage des étudiants. On va donner la parole à Guillaume Brun qui a réalisé, vous allez l'entendre, un tour du monde des pharmacies.
Avec nous en studio, Guillaume Brun, bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiant et tu as fait une chose un petit peu exceptionnelle, on peut dire ça comme ça.
Exceptionnelle, oui, je sais pas trop. Tu penses?
Moi je pense que c'est un petit peu exceptionnel. Okay. Un tour du monde qui était une envie, un tour du monde, on en parlera, je pense pas que tu aies fait tous les pays, tout le tour du monde, mais quand même, un bon tour quand même.
Ouais, quand même.
Donc un voyage de 20 mois qui était à la base une envie de voyage, de coupure, et qui est en fait devenu un peu un projet de recherche. On pourrait dire ça comme ça.
Complètement, ça a pris même le pas sur le voyage, enfin en tout cas ça a pris une grosse partie. Donc voilà, 20 mois de voyage autour du monde, tout seul, à moto. C'est aussi une particularité de ce voyage. Donc à chaque fois, la moto, fallait bien sûr conduire, mais aussi trouver des moyens pour la transporter d'un pays à l'autre parfois.
En avion.
Voilà.
En avion, ça se transporte.
On peut mettre une moto par avion. Ouais. Oh, appris ça un peu avant et ça m'a bien aidé.
Ça, c'est une découverte. Bon, alors, on va recontextualiser un petit peu. Tu es étudiant à l'Université de Bourgogne et en pharmacie.
C'est ça.
Et alors, en quoi précisément, moi, je ne connais pas trop les filières scientifiques ou les spécificités des filières scientifiques en pharmacie. Qu'est-ce que c'est ta spécialisation?
Alors, en pharmacie, il y a deux grosses filières. Ça va être la pharmacie qu'on connaît tous, en ville, ce qu'on va appeler l'officine. Il va y avoir une filière qui prend de plus en plus d'importance, qui va être l'industrie pharmaceutique. Et là, il y a plein de métiers. On peut aussi bien travailler dans la production, la qualité, tout ce qui va être un peu plus business, commercial, tout ce qui va être marketing. Donc voilà, moi, c'est plutôt vers ça, plutôt vers l'industrie et un peu le business, un peu le côté marketing. Mais ce projet n'a pas tant de lien que ça avec l'industrie pharmaceutique, parce que l'idée était de partir découvrir les spécificités du métier de pharmacien autour du monde.
Donc plus en ville, ce qu'on connaît.
Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai vraiment élargi les choses. L'idée, c'était vraiment un peu forcément de focaliser sur le pharmacien de ville, parce que c'est le plus accessible, mais aussi à l'occasion, donc j'ai rencontré donc des pharmaciens de ville, j'ai rencontré plein d'étudiants en pharmacie, j'ai visité des hôpitaux, donc tous les services des pharmacies dans les hôpitaux, j'ai rencontré des présidents de l'ordre des pharmaciens, j'ai visité des industries également. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le métier de pharmacien et quelles sont ces différences? Quelles différences on trouve? Est-ce qu'une pharmacie de ville à Dijon, c'est la même qu'une pharmacie à Mumbai ou une pharmacie à Buenos Aires?
Alors évidemment, non. C'est pas la même chose.
Bah, il y a quand même pas mal de similitudes, parce que bon, après tout, ça reste des médicaments, c'est les mêmes produits. Mais après, celui qu'on trouve derrière le comptoir, c'est pas souvent déjà un pharmacien et pas souvent le même degré de formation. En France, on a la chance, hein, d'études de pharmacie, c'est 6 ans. Dans certains pays, ça va être 3 ans, ça va être 4 ans, ça va être des études où l'idée va être juste d'avoir un diplôme. Et du coup, avec ce diplôme, on va ouvrir un établissement et on va mettre quelqu'un derrière le comptoir qui n'a aucune formation. Et en gros, ça c'est ce qu'on trouve souvent en Asie, pas tout le temps bien sûr, mais certaines personnes ont moins de conscience que d'autres et vont mettre voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui va évaluer votre problème. Est-ce que c'est un petit problème ou est-ce que c'est un gros problème? C'est un petit problème, il va souvent vous donner du paracétamol.
C'est-à-dire que c'est eux qui font les médecins?
Bah, ça arrive souvent, il n'y a pas besoin de prescription, les gens n'ont pas les moyens non plus. Des personnes dans des pays où une grande majorité de personnes sont assez pauvres ne vont pas avoir les moyens d'aller voir le médecin. Et ils n'auront pas l'obligation d'aller voir le médecin pour avoir des médicaments, ce qu'on peut retrouver en Inde, ce qu'on peut retrouver au Népal, par exemple, au Laos également. Et donc, ils vont juste s'adresser à la pharmacie et expliquer leurs problèmes et avoir le médicament. Ça peut être des antibiotiques, ça peut être du paracétamol. Souvent, on reste dans ce cadre-là. Ça ne change pas beaucoup.
Et alors, donc on parle autour du monde, t'es allé dans un petit peu partout. Quel pays t'ont le plus marqué?
Alors, juste pour donner mon itinéraire très rapidement.
Vas-y, donne-nous ton itinéraire. Ça sera mieux, comme ça on saura quel tour du monde tu as fait et ce qui est possible de faire avec une moto.
Alors, c'est un peu compliqué parce que parfois j'étais avec la moto, parfois sans, j'ai dû la laisser. Donc j'ai traversé toute l'Europe pour me rendre en Turquie où j'ai fait une grande boucle. Après j'ai laissé la moto à cause des conflits syriens, j'ai pas pu me rendre là où je voulais aller, j'ai dû changer pour aller donc en Égypte, Jordanie et Israël. Après, une fois que je suis revenu en Turquie, j'ai envoyé ma moto donc par avion en Inde. Une fois en Inde, donc je suis remonté depuis Mumbai, je suis remonté de Bombay, je suis remonté jusqu'au Népal que j'ai traversé également et j'ai renvoyé encore une fois ma moto par avion. Cette fois-ci à Bangkok, et là j'ai vraiment parcouru l'Asie pendant 6-7 mois, de la Chine, le Laos, la Birmanie, la Malaisie, Singapour. Une fois j'ai réussi à mettre la moto dans un bateau depuis la Malaisie pour rejoindre l'Indonésie, Sumatra, où j'ai traversé jusqu'à l'île de Bali.
Oh, c'est beau.
Voilà.
Ça dirait combien de temps en tout?
Cette partie après a duré un an, mais ça s'est poursuivi parce que j'ai renvoyé depuis Bali ma moto en bateau cette fois-ci. Ça a pris 2 mois pour qu'elle aille jusqu'au Chili, à Valparaiso exactement. Moi j'en ai profité pour aller découvrir Sydney quelques jours, après passer en Argentine, toujours en attendant ma moto, l'Uruguay également. Et enfin au Chili, j'ai récupéré la moto pour parcourir toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les États-Unis, enfin le Mexique, les États-Unis, et j'ai terminé la partie française du Canada.
Je me permets juste d'intervenir, ça doit coûter quand même très cher pour envoyer la moto.
Voilà. C'est pour ça que ça a demandé un temps de préparation énorme, presque un an de préparation.
Pour te préparer à tout ça.
Alors j'ai eu la chance, j'ai fait pas mal de petits projets avant, un projet vous connaissez sûrement, le 4L Trophy, un rallye étudiant où il faut partir avec sa 4L au Maroc, trouver des sponsors, donc déjà on apprend à trouver des sponsors. Moi j'ai été engagé également au sein de l'association des étudiants en pharmacie de Dijon, donc en charge des partenariats, donc pendant 2 ans j'ai appris à démarcher, j'ai construit un petit réseau également, donc au final je me suis assez bien débrouillé parce que mon projet était entièrement pris en charge par des partenaires.
C'est beau,
voilà,
c'est beau.
À hauteur d'environ, on va dire,
c'est du
45
boulot,
000 euros.
Voilà. Ça c'est quand même vraiment beaucoup de préparation.
Voilà, c'est ça.
Et tu verras, parce que donc, à la base c'était une envie de voyage, et comment ça s'est tourné en fait, comment, parce que tu dis que la préparation a duré longtemps qu'il a fallu réunir tous ces fonds. Donc tu savais aussi quand même un peu avant de partir.
Bah, encore avant cette année, ouais, voilà. Avant cette année de préparation, j'ai commencé à construire le projet. Au départ, c'était vraiment une envie de voyage, clairement uniquement une envie de voyage. Ce 4L Trophy qui m'a montré que c'était pas si compliqué de construire un projet et de partir. Donc j'ai également commencé à développer mon anglais. J'ai été faire un stage en officine à Londres où j'ai vu un autre système de santé, ce qui m'a vraiment super intéressé. J'ai commencé à chercher des sites internet, voir que c'était facile en fait de faire un tour du monde. Il n'y a rien de compliqué, faut pas que les gens aient peur. Il faut juste être un petit peu débrouillard, savoir gérer quelques petites situations un petit peu difficiles, mais rien de trop difficile, rien de trop compliqué. Donc voilà, à partir de là, j'ai commencé à me dire pourquoi pas prendre des photos des pharmacies, pourquoi pas finalement les rencontrer, ces pharmaciens, discuter un peu avec eux, juste comme ça, puis de donner quelques anecdotes.
Et du coup, t'as eu plus de partenaires et de sponsors.
Au final, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas carrément un projet en lien avec tes études, pourquoi tu fais même ta thèse? Parce qu'au final, le but de toutes ces rencontres, c'est donc de collecter les informations pour faire ma thèse d'exercice, la thèse qui est nécessaire pour être diplômé en tant que pharmacien à la fin de ses études. Bon, parfois, c'est une petite thèse. Moi, ça va être une plus grosse, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais voilà.
Du coup, ce serait quoi l'angle principal de ta thèse? Montrer les différences et les similitudes ou essayer de trouver une sorte... Enfin, ce serait quoi?
Alors, moi, on va être sur un truc assez large. Je dirige mes études vers l'accès au marché, ce qu'on appelle le market access, dans le jargon. Et donc, voilà, ça va être l'accès au marché des produits pharmaceutiques à partir de mon expérience de voyage le tour du monde à moto.
Et donc t'as fini tes études? Non, tu sors d'un...
Il me reste un an. Il me reste ce qu'on appelle an, la, voilà, j'ai fait 5 ans. Il me reste la 6e année qui est la spécialisation. Et c'est là où on part un peu à droite à gauche pour trouver, on va dire, un master 2 qui permet de se spécialiser. Pour moi, ce sera à Paris dans une école.
Et alors t'es parti avec ton français et ton anglais en poche et ça suffisait?
Ça a pas suffi, mais j'avais quand même des petites bases d'espagnol pour l'Amérique du Sud, qui est indispensable. L'espagnol en Amérique du Sud, l'anglais, ça marche pas si bien que ça. On peut se débrouiller, mais pas si bien. Et donc du coup, j'ai dû me remettre à l'espagnol. Et maintenant, j'étais assez content parce que, une petite anecdote, quand j'ai passé la frontière Mexique, États-Unis, j'ai discuté avec une la douanière, et qui m'a dit mais
vous êtes mexicain,
monsieur, vous êtes argentin. Apparemment, j'avais un accent argentin. Ce qu'on m'a dit plusieurs fois dans mon voyage. Donc voilà, j'étais assez content.
Et en Asie, comment ça se passe?
En Asie, on parle bien anglais. J'étais surpris aussi, je pensais avoir plus de difficultés, mais on parle bien anglais, à part en Chine. On va à Pékin, on va à Shanghai, on va à Hong Kong, là il n'y a aucun problème. Mais dans des petites villes comme Kunming, Chengdu, Xi'an, on parle pas du tout, anglais.
Villes,
et là ça devient galère. Il faut apprendre à communiquer avec les mains, ou à sortir des bouquins où c'est écrit en chinois. Enfin, c'est pas évident.
Et alors j'avais lu que tu avais été quand même un peu surpris parce que beaucoup de pharmaciens finalement parlaient français.
Ben, j'ai eu beaucoup de chance en fait, c'est surtout ça. C'est plus de la chance qu'autre chose. Je suis allé en Italie, le pharmacien, il a entendu dire que j'étais français, donc il s'est mis à parler français. Également, une fois que j'étais en Égypte, je rentre dans une pharmacie pour discuter avec ce monsieur et il m'explique qu'il apprend le français par podcast. Donc vraiment beaucoup de chance. Au Laos, pareil, qui est une ancienne colonie française, où on retrouve une grosse influence de la France. Les panneaux de rue sont marqués en français. Enfin, c'est assez surprenant. Je savais pas tout
donc,
ça.
Donc, t'as eu de la chance.
Et ben là, je suis tombé sur une pharmacienne qui pareil parlait complètement français. Donc beaucoup de chance pendant mon voyage. Ça s'est moins retrouvé en Amérique du Sud, mais en tout cas en Asie et le tout début du voyage, beaucoup de chance là-dessus.
Donc pas tant de barrières de la langue que ça. Voilà. Et peut-être pour finir, quels seraient des exemples à ne pas suivre du tout que t'aurais pu trouver dans le monde et au contraire des exemples dont on pourrait s'inspirer un peu, peut-être j'en sais rien moi, dans le domaine pharmaceutique, des choses qui t'ont un peu inspiré, qui t'ont un peu ému, qui t'ont un peu, tu te dis ouais, ça serait mieux en fait de faire ça en France.
Après on va tout de suite rentrer dans des choses un peu techniques. On va parler des études de pharmacie. Souvent les pays vont ouvrir des universités privées, ce qui veut dire qu'il va y avoir un grand nombre d'étudiants pharmaciens, un grand nombre de pharmaciens et donc beaucoup de chômage. En France, c'est interdit, on a un peu de chance là-dessus, pour l'instant du moins. Et donc voilà, c'est des bonnes choses à ce niveau-là. Au niveau de la pharmacie de ville, déjà nous on a la chance d'avoir un pharmacien, ce qui déjà beaucoup de personnes s'en rendent pas compte, disent qu'ils parfois ils donnent pas de conseils. C'est vrai, ça arrive qu'ils donnent pas de conseils parce que maintenant l'économie prend le pas sur un peu le côté santé, ce qui est dommage. C'est un gros challenge pour la profession à l'heure actuelle. Mais malheureusement, il est quand même là pour surveiller ce qu'il donne, ce qui a été donné prescrit par le médecin. Ça reste son rôle clé, vérifier, contrôler, et c'est pas fait dans plein de pays, et malheureusement.
Et puis dans certains pays, en plus, il y a dans les centres commerciaux qu'on peut acheter, ou dans les épiceries qu'on peut acheter
des gros exemples des
États-Unis, des magasins, des médicaments.
Des gros supermarchés où on se demande, il y a marqué pharmacie, hein, gros.
Ouais,
sur le...
c'est au fond du magasin.
C'est tout petit, il y a une petite section, il y a trois personnes qui sont là, alors que c'est une pharmacie, mais non, on peut acheter des M&M's ou peu importe, du soda. D'ailleurs, c'était très drôle parce que je suis passé devant des grandes chaînes de pharmacies, comme on peut en citer une, CVS. Et il y avait une pub, des écrans lumineux qui passaient des pubs. Donc la première, c'était attention à votre diabète. Voilà, pensez à checker tout ça. Venez voir votre pharmacien. Et la pub qui défilait derrière, c'était pour une pub pour une réduction sur le Coca-Cola. Enfin, c'était fou. Enfin, moi, ça me choque. Mais c'est normal là-bas.
Oui, c'est normal. C'est les États-Unis.
C'est business avant tout.
Merci Guillaume d'être venu nous parler un peu de ton expérience.
Merci à Guillaume Brun et Clara de Cherizet, les deux étudiants qui nous ont conté leur voyage, des expériences enrichissantes et peu communes, comme vous avez pu l'entendre. Ce numéro d'Univox proposé par Radio Dijon Campus s'achève. Je remercie Léa Signe qui a participé à cette émission, également le réalisateur Hugo Boutier. Et moi, je vous dis au revoir.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.